autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, et tout particulièrement vous qui nous écoutez au CAI, en Haïti, sur 92.7, pour tenter de comprendre pourquoi la Terre a de nouveau tremblé en Haïti le 14 août dernier. Est-il possible de prévoir, de prévenir les séismes, de surveiller les failles à risque et le mouvement des plaques tectoniques, d'écouter la Terre et de la surveiller depuis l'espace? Comment, depuis le terrible séisme de 2010, des chercheurs, des sismologues d'Haïti et du monde entier ont réussi à se mobiliser et à mobiliser aussi les citoyens haïtiens pour localiser en temps réel les événements sismiques, déterminer l'épicentre et suivre les répliques. Même si chaque tremblement de terre est différent et qu'il survient en général là où on ne l'attendait pas, de nouveaux outils d'observation, de nouvelles stratégies collaboratives, notamment autour du réseau Urgeo en Haïti, peuvent changer un peu la donne. Comme nous allons le découvrir avec nos invités en direct avec nous depuis Port-au-Prince, le professeur de géosciences Éric Calais, en studio à Paris avec nous le sismologue Romain Jolivet et au micro d'Amélie Baron, notre correspondante en Haïti, le chercheur en géosciences Steve Smith de la faculté des sciences de l'Université d'État de Haïti qui nous fera lui découvrir les capteurs citoyens, les sismo-citoyens en Haïti autour de la question « Quelles failles sont à l'origine du dernier séisme ?» Bienvenue pour nous interroger ensemble, exactement un mois et un jour après le 14 août 2021.
En plein sommeil, j'ai senti les répliques et ça m'a réveillée. Les maisons qui sont en tôle, on sent que ça craque, ça fait une sorte de bruit comme si quelqu'un était en train de marcher dessus. Et puis, on sent comme si on était en train de naviguer, comme si on était sous l'eau ou je ne sais pas trop, on était en train de naviguer et puis... J'ai un miroir dans ma chambre, ça a tellement secoué que moi je pensais que c'était les enfants qui étaient en train de secouer ça. Et puis tout de suite, je me suis dit que c'est pas ça. Et le réflexe est de sortir. J'ai couru dehors et tout le monde était déjà dehors. Il y avait les enfants éparpillés partout, les parents étaient en train de les chercher. C'est comme une sorte de panique. Même si on sait que l'épicentre n'est pas à Port-au-Prince, mais vu qu'on a vécu le tremblement de terre du 12 janvier 2010, on a peur.
Témoignage de Neftali Calixte, recueilli dans la région de Port-au-Prince par Stéphanie Schuller, envoyée spéciale de RFI le 15 août dernier en Haïti, où vous êtes actuellement. Professeur Éric Calais, bonjour.
Oui, bonjour. Je me trouve actuellement à Port-au-Prince, à 130 km du séisme de août dernier.
Merci beaucoup d'être en ligne en direct avec nous, donc depuis Port-au-Prince, vous l'avez dit. Alors vous êtes Éric Calais, géologue, géophysicien, professeur à l'École normale supérieure. Vous avez été détaché par l'IRD au laboratoire GéoAzur de Nice-Sophia Antipolis et en Haïti, où vous avez travaillé pendant de nombreuses années. Vous êtes spécialiste internationalement reconnu de la géodésie spatiale de haute prévision, pionnier de toutes ces applications sur les plaques tectoniques. Vous avez beaucoup travaillé sur le terrible séisme en Haïti de janvier 2010, dont parlait évidemment Neftali Calixte, qui est encore dans toutes les mémoires. Vous avez même publié chez l'Harmattan en 2017 un ouvrage critique, Science et conscience, dans la post-urgence du séisme d'Haïti. Vous travaillez, Éric Calais, aujourd'hui sur ce séisme d'août dernier avec vos collègues haïtiens depuis Port-au-Prince. Est-ce que vous êtes, je sais pas comment dire, mieux armé? Est-ce que la terrible expérience de 2010 a fait avancer l'imprévisible, enfin un peu la connaissance sur les séismes, Éric Calais?
La réponse simple est oui. Oui, je vais élaborer un petit peu. Mmh. En 2010, après le terrible tremblement de terre en termes de la dévastation qu'il avait causé, il nous a fallu à peu près 6 mois pour arriver au niveau de connaissance que l'on a maintenant, seulement 4 semaines ou un mois après le séisme de 2021. Donc il y a quelque chose qui s'est passé manifestement, et ce qui s'est passé, c'est surtout une mise en capacité de nos collègues haïtiens sur place des efforts de formation qui ont été engagés par de nombreuses équipes internationales en collaboration avec eux, des efforts aussi d'instrumentation, de mise en place d'instruments sismologiques et autres sur le terrain qui font que nous sommes maintenant, nous, quand je dis c'est un nous collectif, mm-hmm. c'est vraiment le nous, les Haïtiens et leurs collaborateurs, beaucoup mieux armés qu'en 2010 pour comprendre ce qui s'est passé de manière rapide.
Bonjour Romain Jolivet.
Bonjour.
Merci à vous d'être en direct avec nous en studio à Paris. Alors vous êtes maître de conférence en géosciences à l'École normale supérieure, Université Paris Sciences Lettres, dans l'équipe du professeur Éric Calais. Vous étiez depuis Paris, hein, c'est ça, en lien avec vos collègues et confrères en Haïti le 14 août dernier pour avoir travaillé sur ce séisme autour de la question quelle faille en est à l'origine. Est-ce que vous avez tout de suite compris ce qui arrivait ? Est-ce que vous avez été surpris ? Qu'en était-il ?
Alors, ce qui est intéressant quand on travaille sur ce genre de phénomène, on sait qu'on est souvent surpris et ça fonctionne souvent différemment de ce qu'on attendait. La technique que j'utilise le plus, que j'affectionne le plus, c'est une technique qui s'appelle l'imagerie radar par satellite qui permet de construire des cartes de déformation du sol. Donc un séisme, ça déforme le sol et à partir de ces déformations, on est capable d'essayer de comprendre quelle faille a rompu, où est-ce qu'elle a rompu, de combien de mètres ça a glissé, etc. etc. Et donc, généralement, la réponse qu'on a préconçue, on se dit cette faille va rompre de telle manière, généralement, elle rompt différemment. Et c'est intéressant parce que ça permet évidemment d'invalider des hypothèses qu'on avait avant et donc de faire progresser la science de cette manière-là.
Donc de l'intérêt de comprendre et de l'intérêt finalement parce qu'au fond, on est toujours surpris. Et il faut bien le dire, Éric Calais, Romain Jolivet, c'est pas possible de prévoir un séisme. On peut essayer de comprendre, d'aller au plus près, mais véritablement de prévoir où et quand et comment, mission impossible, hein, c'est Alors, ça. Hein.
Pour l'instant, c'est impossible. Voilà. Et je pense que ce sera pas de si tôt qu'on arrivera à prévoir où et quand il y aura un séisme. Maintenant, on peut évidemment dire qu'il y a plus de séismes aux frontières de plaques tectoniques qu'à l'intérieur des plaques tectoniques.
Voilà. Aux frontières des plaques tectoniques. Alors là, vous allez répondre tous les deux. Hein, je ne sais pas qui va s'en charger, Romain Jolivet depuis Paris ou Éric Calais depuis Port-au-Prince. Vous allez répondre à un dialogue qui s'est instauré sur notre page Facebook entre deux de nos auditeurs, Aldoudi à Abidjan, qui disait « Mais finalement, pourquoi la Terre tremble plus en Haïti qu'ailleurs ? Est-ce qu'Haïti est un pays maudit ?» hein, il en appelait à nos auditeurs. Et il y a Joey Caboto de Kinshasa qui lui a répondu « La Terre tremble à plusieurs endroits du monde de par leur position sur la Terre, pas seulement en Haïti, il cite le Japon, l'Inde, la Malaisie, l'Italie, l'Est de l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Océanie. » Il dit « En revanche, on peut faire attention à la manière dont on construit les maisons d'habitation et les autres écoles. Au Japon, la Terre tremble tous les jours. » Un autre de nos auditeurs ajoute effectivement pourquoi certaines contrées en Haïti ou Népal sont plus victimes de tremblements de terre. Qui veut répondre là-dessus Éric Calais ?
Oui, je veux bien dire quelques mots là-dessus. C'est évident qu'il n'y a rien de spécial, je dirais, sur Haïti. Et du point de vue des tremblements de terre, il faut se rappeler que dans l'histoire, peut-être qu'elle est archivée depuis qu'on a des archives mm-hmm. écrites sur cette région, sur les Antilles, la Caraïbe en général. Donc, en gros, depuis Christophe Colomb, on va dire. Mm-hmm. On sait que toute cette région, pas seulement Haïti, mais aussi ce qui s'appelle maintenant la République dominicaine, Cuba, la Jamaïque, et les Antilles françaises aussi, sont affectées par des tremblements de terre régulièrement. Donc, la région dont on parle n'a rien de spécial. Le séisme d'août dernier n'a rien de spécial par rapport, par exemple, à une séquence de séismes qui est très bien documentée dans les archives historiques, qui a frappé toute cette région du Grand Sud de l'île d'Haïti depuis 1701, deux tremblements de terre ensuite en 1751, deux tremblements de terre en 1761, un tremblement de terre en 1770. Donc il y a des séquences qu'on essaye de déchiffrer, on essaye de comprendre pourquoi, quelle est la physique qui est derrière tout ça. C'est pas facile, mais il n'y a rien de spécifique à Haïti. La seule chose qui, d'un point de vue géologique, par rapport aux autres frontières de plaques. Par contre, ce qui est spécifique à Haïti et ce qui évidemment attise sans doute un certain nombre d'intérêts du point de vue de la presse, des médias,
bien sûr.
Bon, des du citoyen en général, c'est que c'est un pays qui est très complexe, c'est un pays qui est en sous-développement chronique, comme on sait, et puis c'est un pays où la vulnérabilité face aux tremblements de terre est exacerbée par rapport à beaucoup d'autres. Et donc, évidemment, dès qu'un tremblement de terre qui ailleurs aurait eu des impacts relativement mineurs a lieu, eh bien, en Haïti, malheureusement, il y a des impacts majeurs, et donc on en parle beaucoup.
Donc c'est effectivement lié à ça aussi. Moi j'ai une petite question. Je me dis aussi, mais pourquoi ça frappe Haïti et pas la République dominicaine alors que c'est la même île? Éric Calais?
Je n'ai pas entendu.
Vous n'avez pas entendu ma question?
J'entends, bien sûr. J'ai un autre retour dans mon temps.
Alors, on va essayer d'améliorer ça, mais c'est vrai que vous êtes en direct depuis Port-au-Prince et que, heureusement, vous avez une liaison Internet et de l'électricité. On compte dessus. Non, je vous demandais pourquoi, finalement, ça touche plus Haïti que l'autre partie de l'île, enfin, la République dominicaine. On a parfois du mal à comprendre ça.
Non, alors là, en fait, là aussi, il faut démystifier des perceptions, oui, voilà. Parce qu'il faut se souvenir quand même que le plus grand tremblement de terre qui a affecté cette région a eu lieu en 1946, magnitude 8.2, dans le nord-est de la République dominicaine, avec un tsunami qui a tué des centaines de personnes. Donc 8.2 par rapport au 7.2 que l'on a connu, c'est 30 fois supérieur en termes de magnitude. Donc il ne faut pas imaginer que par un hasard particulier ou par je ne sais quoi, la République dominicaine à côté serait épargnée. Il faut regarder les choses avec du recul. Quand on fait de la sismologie, de la géologie, des géosciences en général, les échelles de temps ne sont pas des échelles de temps de quelques années. On est, nous, sur des centaines et des milliers d'années. Et quand on regarde sur quelques centaines d'années le catalogue, le calendrier en quelque sorte des tremblements de terre sur toute cette région, Haïti, République dominicaine et les pays qui sont autour, il n'y a rien de spécial sur Haïti. Les autres pays ont été affectés, c'est vrai pour la Jamaïque. C'est vrai pour Cuba, c'est vrai pour Porto Rico, mais encore une fois, on fait un focus sur Haïti aussi, parce que c'est un pays qui est dans les nouvelles en ce moment, on va dire, pour des raisons qui ne sont pas d'ordre géologique, celle-là.
Absolument, et les failles, elles sont partout, et pas seulement sismiques. Vous avez dit, Romain Jolivet, on nous avait parlé de frontières, de plaques aussi. Vous étudiez, vous, effectivement, ce séisme en Haïti, sur lequel vous avez travaillé, mais aussi vous travaillez sur d'autres endroits du monde qui sont à des frontières de plaques tectoniques, c'est ça, hein ?
C'est ça, oui. Donc, la Terre est pavée de ces plaques tectoniques qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Ça, si vous mettez une station GPS, par exemple, à Paris, une autre à New York, vous verrez qu'elles s'écartent de quelques centimètres par an chaque année.
Chaque année, quelques centimètres quand même, c'est pas rien.
Et donc, ces plaques bougent. Forcément, comme elles bougent, alors qu'elles sont globalement rigides, vous accumulez des contraintes aux frontières de ces plaques et de temps à autre, vous avez des tremblements de terre. Et donc, un de nos travaux au laboratoire de géologie, mais dans la plupart des laboratoires de géophysique en France et dans le monde, c'est aussi d'étudier où est-ce que la Terre se déforme, comment elle se déforme et où la contrainte tectonique va s'accumuler, de manière à essayer d'identifier quelles sont les régions qui vont être les plus prônes à rompre un jour. Voilà. On voit la déformation qui a lieu, on voit la contrainte qui s'accumule, on voit qu'il y a un déficit dans la déformation relative entre les plaques qui bougent. Et ce déficit, il faut le rattraper d'une manière ou d'une autre. Et il va se rattraper par des tremblements de terre de temps à autre, qui peuvent être plus ou moins gros.
Comme celui qui s'est déroulé donc le 14 août dernier en Haïti, autour de la question quelles failles sont à l'origine de ce dernier séisme. Je propose maintenant de retrouver un de vos confrères haïtiens avec lesquels vous travaillez, brillant chercheur de l'équipe Urgéo, c'est Steve Smith. Il est chercheur en géophysique, en géodésie, en sismologie à l'Université de Haïti, très impliqué dans l'installation du réseau sismo-citoyen en Haïti, on en parlera plus tard. Notre correspondante Amélie Baron a réussi à l'attraper sur place quelques jours à peine. Après le séisme, Steve Smith, évidemment, était partout, en pleine activité. Je pense qu'il n'avait pas beaucoup dormi.
Dès qu'il y a un fort séisme, eh bien, on sait que dans les 2-3 mois après, il va y avoir plein de répliques. Est-ce que je peux dire que c'est une aubaine pour les chercheurs? C'est vrai, parce que c'est une source de données gratuite et formidable. Donc, du coup, il faut aller sur place, densifier déjà le réseau qui existait, pour étudier un séisme, pour le localiser, pour étudier la faille qui a produit ce séisme, il faut un ensemble d'instruments. Comme a priori, on ne sait pas où ça va péter, donc du coup, on ne peut pas prévoir un ensemble très important d'instruments dans cette zone-là. Une fois qu'on connaît là où il y a eu le choc principal, donc on sait que les répliques vont se situer dans ces zones-là, eh bien, le travail, c'est d'aller et de densifier le réseau de capteurs qu'il y a dans la zone. Très rapidement, c'est ce qu'on a fait. Ensuite aussi, on utilise des données GPS aussi. Donc, du coup, on a des benchmarks, c'est-à-dire des points qu'on mesure de façon régulière. Eh bien, c'était aussi l'occasion d'envoyer une équipe sur le terrain pour remesurer ces points-là. Par exemple, là, j'ai fait deux voyages successifs dans la zone épicentrale.
Et quand on voit la montagne par endroit a comme été dynamitée, il y a cette impression-là, il y a eu énormément de glissements de terrain. Pour le scientifique que vous êtes, c'est autant d'éléments, d'informations et d'indices sur ce séisme-là?
Oui, les glissements de terrain, il y a des scientifiques qui s'intéressent aux glissements de terrain qui ont été accompagnés par ce séisme. Il y en a d'autres qui s'intéressent à la ligne de rupture, parce que la faille, est-ce qu'elle a rompu en surface? Et on doit le savoir. Quel est le plan de faille, c'est-à-dire la géométrie de la faille qui a produit ce séisme? Donc, on va installer des stations sismologiques tout près. On va faire du GPS. On va aussi déployer des géologues sur le terrain pour aller rechercher la trace de la faille qui a produit ce séisme. Par exemple, là, depuis plus de 6 jours, on a un géologue qui est sur le terrain et qui regarde dans la zone épicentrale pour voir comment est-ce qu'il peut cartographier la ligne de rupture si elle existe.
Éric Calais, depuis Port-au-Prince, vous voulez réagir à ce que vient de dire au micro notre correspondante Amélie Baron, Steve Smith? Est-ce qu'il a été possible de cartographier la ligne de rupture? Et qu'est-ce que ça dit?
Oui, alors je vais réagir sur deux points. Le premier point, c'est que voilà, la science, ce qu'a dit Steve Smith montre que la science ne se fait pas sans des gens, et surtout localement, quand on est en Haïti, des chercheurs locaux brillants comme Steve Smith qui sont le produit du séisme de 2010, en fait. Donc voilà, c'est une première parenthèse que je voulais faire.
Oui, important, bien sûr.
C'est quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est qu'on a réussi, grâce à des efforts que Steve Smith et d'autres collègues ont mis en place, effectivement, à avoir très rapidement une image assez précise, au moins de la longueur de la rupture, grâce aux répliques qui suivent chaque séisme et qu'on a pu enregistrer donc très rapidement. Et on a très vite finalement eu des premiers éléments, je dirais dans la première semaine ou les deux premières semaines qui ont suivi le tremblement de terre, pour commencer à comprendre quelle était la faille qui a rompu, grâce surtout à des stations sismo-citoyennes dont on parlera peut-être.
Oui, on va en parler, absolument.
Voilà, qui ont été installés par Steve Smith et d'autres.
Chez l'habitant, véritablement, chez l'habitant en Haïti.
Pardon ?
Des stations qui ont été installées chez l'habitant en Haïti et dans plusieurs régions, dans toute la région, dans toutes les régions d'Haïti.
Oui, voilà, c'est ça. C'est un effort qui implique tout le pays d'Haïti. On s'est dit, bien, comme il est très difficile finalement dans des pays avec tant de difficultés socio-économiques, de maintenir un réseau sismologique opérationnel et puis d'agir par le biais de mécanismes institutionnels sur la réduction du risque. Et on s'est dit, essayons d'agir au travers des citoyens. Et nous avons installé pour le moment une quinzaine de stations sismologiques chez les citoyens. Donc nous avons leur concours, parce qu'ils nous prêtent leur Internet, ils nous prêtent leur électricité. Ce sont deux ressources qui sont extrêmement précieuses en Haïti. Et nous interagissons avec eux. Nous essayons aussi de comprendre quelle est leur perception de ces séismes, quelle est leur perception de la science, comment est-ce qu'eux comprennent ces phénomènes. Nous, sismologues, nous les comprenons parfois par le petit bout de la lorgnette, finalement. Donc, ils sont très engagés, ces sismo-citoyens. Il faut vraiment les remercier et nous allons continuer à installer plus de stations de ce type-là en Haïti, chez les gens, chez les volontaires. Et ce sont vraiment elles qui nous ont permis très rapidement de comprendre ce qui s'était passé, évidemment avec le complément de données satellitaires, par exemple celles que Romain Jolivet mentionnait tout à l'heure, et d'autres types d'informations.
Justement, Romain Jolivet, donc, on va en reparler de ces capteurs sismo-citoyens. Il y a aussi d'autres outils aujourd'hui pour renseigner, et on le comprend bien avec ce que disait Éric Calais, pour renseigner tout de suite, au fond, à partir des répliques elles-mêmes, sur ces failles, sur ce qui les a provoquées et sur les risques, le nombre de répliques qu'il peut y avoir après et si les failles sont de plus en plus ouvertes, on peut le dire comme ça ?
On peut le dire comme ça. Alors, j'allais rebondir aussi sur ce que Eric vient de dire. C'est effectivement un travail remarquable qui a été fait en Haïti. Avoir ces répliques-là si vite, c'est vraiment formidable. C'est tout le travail qui a été initié par Eric, par les collègues haïtiens, les collègues de l'université de Nice, Côte d'Azur, etc. Ça, c'est vraiment hyper important. Et ce qui est très important, c'est que ces données qui ont été collectées par ce réseau citoyen, elles sont cohérentes avec toutes les autres données qu'on peut collecter par les moyens plus conventionnels qui, eux, coûtent très, très cher.
Par exemple, les moyens satellitaires. Par exemple, les moyens satellites. C'est ça. Voilà. Donc, il faut les deux, en fait. Il faut regarder du ciel et les capter dans les vibrations terrestres.
Quand on regarde uniquement de l'espace, on a certaines informations. On est capable de donner des informations sur la géométrie de la faille qui a rompu. Est-ce que c'est un plan qui penche plutôt vers le nord, plutôt vers le sud, qui fait telle taille, etc. Mais on a des incertitudes, évidemment. Et ces incertitudes vont être réduite par la comparaison avec toutes les autres données. Et en fait, il faut être honnête, rien ne bat les données qu'on acquiert sur place. Donc ça, l'existence de ce réseau est fondamentale et vraiment ça
et fondamentale pour comprendre ce qui se passe sur le moment. Je vous ai vu aussi, on peut le dire à nos auditeurs, c'était juste avant qu'on soit à l'antenne, vu que vous étiez en lien avec Eric Calais depuis Port-au-Prince, parler tous les deux de la taille de la faille, enfin de certaines choses qui vous font vraiment avancer et comprendre la suite, ce qui peut se passer ou pas.
Oui, alors après un tremblement de terre, un grand tremblement de terre, donc Steve l'a dit, il l'a très bien expliqué tout à l'heure dans l'extrait, on a ce qu'on appelle des répliques. Le nombre de répliques décroît avec le temps, généralement. Plus on s'éloigne du séisme, plus la probabilité d'avoir une réplique est faible. Généralement, la plus grosse réplique, elle est d'un ordre de magnitude en dessous du choc principal. Ça, c'est ce qu'on observe à l'échelle mondiale sur tous les séismes.
Donc, le choc principal le plus gros dans l'épicentre et ensuite,
voilà.
Ça diminue.
Donc, par exemple, là, un 7.2, on s'attend à une réplique la plus forte de l'ordre de 6, peut-être un peu moins. Voilà. Mais là, ça fait déjà quand même un mois pour un magnitude 7. On est arrivé dans une période où c'est beaucoup plus calme statistiquement. Encore une fois, statistiquement.
Statistiquement, il ne devrait pas y avoir trop de répliques. Mais vous méfiez des surprises.
Voilà.
Hein, on a bien compris.
Donc évidemment, il faut se méfier des surprises parce que par exemple, si on prend le grand séisme du Japon qui a eu lieu en 2011, le séisme de Tohoku, qui est un des séismes qui a le plus révolutionné notre compréhension des séismes dans les zones de subduction.
Zones de subduction, c'est-à-dire aux plaques.
C'est
un type de frontière de plaque,
un certain type de frontière de plaque. Et donc, quelques jours avant ce séisme-là, il y a eu un séisme de magnitude 7.3, je crois, ou 7.4, je ne sais plus. Bref, un peu plus gros que celui qu'il y a eu en Haïti, là. Alors, ce n'est pas du tout le même contexte, ça n'a rien à voir, mais bon, voilà, il y a des surprises. Alors, en Haïti, je pense que là, je ne sais pas, on verra bien, mais statistiquement, on suit les courbes de d'habitude. Voilà. Et
d'accord.
Ça, c'est grâce à ce réseau.
Et grâce à tout ce qu'on peut comprendre, et on comprend bien que finalement, on apprend de chaque tremblement de terre autour de la question quelle faille. On l'a dit, il n'y a pas que les failles sismiques, hein, y a aussi des failles humaines, politiques, géopolitiques, économiques. Quelles failles sont à l'origine du dernier séisme en Haïti ? On continue de s'interroger. Entre Paris et Port-au-Prince, où vous êtes nombreux à nous suivre, chers amis auditeurs, sur 106.9, au les cœurs, c'est Mélissa Lavaux qui nous enchante maintenant avec ce morceau censé protéger justement des infortunes. Nan point, la vie encore en créole haïtien sur RFI.
Mes amis, mais ne pouvez pas sans qu'elle.
Lavaux, entre Port-au-Prince et Paris sur RFI. Autour de la question quelle faille à l'origine du dernier séisme en Haïti, nous sommes en direct avec le professeur de géophysique Éric Calais depuis Port-au-Prince en Haïti, où il a beaucoup travaillé déjà sur le terrible séisme de 2010 et où il travaille en collaboration avec les chercheurs haïtiens sur celui d'août 2021. Nous sommes également ici en studio à Paris avec le chercheur en géosciences Romain Jolivet, qui lui aussi, en lien avec toutes les équipes de chercheurs haïtiens de Urgéo, travaille à mieux comprendre par satellite, par image satellite notamment, le dernier séisme du 14 août 2021. Alors comment cette alliance de chercheurs internationaux, français, haïtiens, réussissent à faire avancer nos connaissances et peut-être à avoir une meilleure compréhension, connaissance et prévention des séismes? C'est notamment, et d'ailleurs vous l'avez dit, Éric Calais et Romain Jolivet, aussi à travers des réseaux de sismo-citoyens en Haïti. Et oui, ça marche, ça fonctionne. Un réseau de simples citoyens équipés à la maison de sismo-capteurs et qui ont la précieuse électricité, le précieux Internet et qui du coup captent les vibrations de la Terre pour les chercheurs, comme le chercheur en géosciences Steve Simit de la faculté des sciences de l'Université de Haïti. Je propose de l'écouter sur cet inspirant réseau de sismo-citoyens qu'il a monté lui-même avec son équipe, au micro d'Amélie Baron, notre correspondante en Haïti.
On a développé un projet où on s'est dit, au lieu qu'on reste là, sur nos fauteuils ou bien derrière nos ordi, comme le grand professeur, c'est lui qui va aller chercher les données, eh bien, si on essayait une autre approche où le citoyen lui-même soit très impliqué, il accepte d'héberger un capteur chez lui, se préoccupe s'il est connecté à l'Internet ou bien s'il a du courant électrique, etc. Donc, pour nous, c'est une façon de motiver, en tout cas, des gens dans différentes communautés. Et ces gens-là, eux, vont servir comme des ambassadeurs du risque sismique et ils vont en parler autour d'eux, etc. Donc, ça, c'est une nouvelle approche qu'on a développée avec ce projet. Et ça nous permet d'installer des capteurs de façon beaucoup plus dense dans la zone, à peu frais, quoi.
Aujourd'hui, il y a combien de ces capteurs chez des citoyens ambassadeurs?
On a plus qu'une quinzaine, mais on sait qu'en Haïti, l'accès à l'Internet, c'est encore un luxe. Donc, du coup, il y a des problèmes de sites qui soient déconnectés, mais on a par jour au moins 12 ou 10 fonctionnent correctement. Et puis, en plus, il y a le réseau squelette, on va dire, qui est constitué de capteurs beaucoup plus professionnels. Et puis là, récemment, on a été tout près de la zone, on a installé encore 14 stations professionnelles et deux de ces, ce qu'on appelle les RS, Raspberry Shake, les capteurs citoyens.
Steve Simit au micro de notre correspondante en Haïti, Amélie Baron. Alors vous qui nous écoutez, allez mettons à Jacmel ou au Cap Haïtien sur 100.5, n'hésitez pas à vous manifester si vous pouvez. Hein, si vous avez internet, si vous voulez devenir vous aussi un sismo-citoyen et installer un capteur chez vous. N'est-ce pas, Éric Calais, depuis Port-au-Prince, c'est extraordinaire quand même comme ça fonctionne. Et heureusement que ça fonctionne, ce réseau de sismo-citoyens en Haïti.
Oui, oui, c'est vrai. Et merci pour cet appel. Je l'aurais fait moi-même, mais je le répète. Donc, effectivement, si les auditeurs en Haïti se sentent une âme de sismo-citoyen, il faut absolument qu'ils nous contactent. Quand on a commencé cette aventure, nous n'étions pas certains, finalement, que ça allait fonctionner. Mm-hmm. C'était un petit peu risqué, c'était risqué. Il se trouve que ces capteurs à faible coût, nous achetons nous-mêmes, on ne demande pas aux hébergeurs de les acheter, venaient juste de sortir sur le marché en 2018-2019, et puis on a testé l'opération, on s'est rendu compte de deux choses. On s'est rendu compte que d'un point de vue technique, sismologique, eh bien, les données qu'ils fournissaient étaient tout à fait pertinentes pour faire de la sismologie de base, localiser le tremblement de terre, localiser les répliques, etc. Donc, très bien. Et puis, d'autre part, donc ça, c'est un travail qui a été fait, hein, cette validation technique, mm-hmm. Il fallait quand même la faire.
Bien sûr.
Elle a été faite avec les collègues du laboratoire GéoAzur de l'Université Côte d'Azur à Nice, qui font un travail énorme derrière tout ce système, mm-hmm. avec évidemment nos amis haïtiens. Et puis, on s'est aperçu d'une autre chose, c'est qu'il y avait une envie vraiment d'un certain nombre de citoyens haïtiens de contribuer,
ah oui.
d'être utile, de fournir des données, de participer finalement à une amélioration des conditions générales de ce pays, qui, on ne peut pas dire qu'il aille très bien. Mmh. Et ça a été vraiment une sorte de surprise pour nous et une agréable surprise. Donc nous cherchons à nouveau des gens qui sont volontaires, qui sont enthousiastes et qui sont aussi intéressés à discuter avec les scientifiques, parce qu'un des écueils, une des difficultés actuelles qui dépasse la sismologie d'ailleurs, c'est celle du dialogue entre les scientifiques et les citoyens.
Bien sûr.
Et donc si nous pouvons, au travers de ces petits capteurs faible coût en Haïti ou ailleurs dans le monde, hein, d'ailleurs, établir ce dialogue, briser cette glace un peu entre les scientifiques et les citoyens et arriver à établir un dialogue d'égal à égal, en quelque sorte, eh bien, ce serait une avancée importante pour des raisons qui dépassent finalement la sismologie.
C'est vrai, hein. Et Romain Jolivet, j'ai envie de faire réagir là-dessus parce que c'est assez étonnant. Enfin, on se rend bien compte que c'est un projet qui a été monté aussi parce que fallait faire quelque chose après le terrible séisme de 2010, qui n'avait pas tellement de moyens, qu'il fallait aussi former les chercheurs sur place. Hein. On a entendu Steve Simit et il y en a d'autres qui sont formidables, mais pas beaucoup de moyens, pas beaucoup d'infrastructures. Et finalement, ce projet de sismo citoyen a fonctionné au-delà de vos espérances, on peut le dire comme ça, et pourrait être copié ailleurs.
Ah bah j'avoue que moi, au départ, quand je voyais Eric commencer à lancer ce réseau, embarquer nos collègues de Nice, embarquer les collègues haïtiens là-dedans, je trouvais ça sympathique, mais j'y croyais pas du tout. Donc là, moi, je suis admiratif de ce qu'ils ont réussi à faire et de ce qu'on peut faire avec ce genre de réseau. Du coup, en fait, maintenant, j'espère que dans d'autres régions du monde, d'autres endroits qui sont peu instrumentés parce que ça coûte cher, parce que c'est difficile de maintenir un réseau, c'est des technologies qui sont compliquées, qui impliquent beaucoup d'infrastructures, de maintenance, etc. Si ce genre de choses peut donner des idées à d'autres personnes qui travaillent sur des zones à la complexité comparable, on va dire, ce serait formidable parce que ça permettrait d'obtenir des données sur des zones où on n'a pas assez de données.
C'est ça, parce qu'il vous faut des données pour comprendre les séismes. On a bien compris qu'ils nous surprennent à chaque fois. Quand vous dites instrumentation, on a bien compris, il y a donc des capteurs qui captent au fond quoi, les vibrations de la Terre, qui sentent ce qui se passe. Il faut les mettre. Est-ce que à chaque séisme, on comprend un peu ce qui se passe, on comprend un peu mieux ce qui se passe? Il y a du satellitaire. Regardez en haut. Qu'est-ce que vous surveillez? Les failles, comment elles sont? Qu'est-ce que vous pouvez nous faire passer de ce que vous surveillez, notamment en Haïti, mais ailleurs aussi?
Alors, faut bien voir que la sismologie moderne, c'est une science qui a, 60-70 ans.
C'est jeune. Hein.
Donc c'est jeune. Et cette sismologie, à la base, c'est essentiellement mesurer les vibrations du sol. Donc on met un capteur par terre, qui est généralement un accéléromètre, parfois un vélocimètre. Vous en avez dans votre téléphone maintenant, qui mesure comment votre téléphone bouge. Et ces capteurs vont mesurer comment le sol vibre. Ces vibrations, elles nous renseignent à la fois sur la nature du sol et à la fois sur où les séismes ont lieu. Donc ça, c'est les premières choses. Depuis les années 90, on peut aussi installer ce qu'on appelle des stations GPS. Alors, c'est comme une antenne GPS que vous avez aussi dans votre téléphone, sauf qu'elles sont un peu plus compliquées, elles coûtent un peu plus cher et elles ont une précision de l'ordre du millimètre. Et donc, on est capable de mesurer des mouvements avec une précision de l'ordre du millimètre qui correspondent à ces mouvements de plaques tectoniques, comme ça.
Et que vous mesurez, évidemment, sur des zones que vous savez à risque, vous savez déjà qu'il y a des failles, c'est
ça. Voilà, et donc en fait, là-dedans, les catalogues de sismicité sont hyper importants, puisqu'on sait qu'il y a des séismes depuis longtemps en Haïti, on sait depuis longtemps qu'il y a des séismes en
Haïti, j'ai bien compris.
On sait pareil pour la Californie, le Japon, etc. Toutes ces zones, on sait qu'elles sont à risque. Donc c'est là-bas qu'on va focaliser nos efforts.
Éric Calais, depuis Port-au-Prince, sur quoi travaillez-vous en ce moment? Puisque vous êtes donc à Port-au-Prince, vous travaillez avec vos collègues haïtiens sur ce séisme, sur quoi? Sur qu'est-ce qui se passera ensuite, hein? On a bien compris que c'était pratiquement impossible de prévoir, mais sur quoi travaillez-vous en ce moment?
Bien, actuellement, on travaille sur l'exploitation des données acquises justement grâce à ce réseau de sismomètres sismo-citoyens. On travaille aussi à inclure dans cette réflexion les données satellitaires dont parlait Romain Jolivet à l'instant et tout un tas d'autres informations que nous avons pu avoir sur le terrain, Donc, dans à peu près dans 30 minutes, en fait, nous avons une visioconférence avec l'ensemble des collaborateurs haïtiens et français à l'ENS, à Nice, etc., qui travaillent sur ce projet pour vraiment finaliser notre compréhension de premier ordre de ce qui s'est passé, parce que, comme disait Romain Jolivet avec raison tout à l'heure, à nouveau, ce tremblement de terre est une surprise. En 2010, déjà, c'était une surprise. Le tremblement de terre n'avait pas eu lieu sur la faille attendue. Mm-hmm. Et puis, il n'avait pas le mécanisme attendu non plus. On est en 2021 et nous avons exactement la même surprise. On n'a pas affaire à un tremblement de terre attendu. Donc, il faut comprendre pourquoi. C'est là-dessus que nous travaillons. Et puis, il faut aussi comprendre l'impact que cela a sur notre connaissance de la menace sismique dans la région. Il existe en Haïti une carte qui est utilisée d'ailleurs dans le Code national du bâtiment haïtien, une carte de menace sismique qui est utile pour le dimensionnement des infrastructures, des bâtiments, etc. Et on se rend compte aujourd'hui, alors elle a été réalisée, cette carte, il faut bien le rappeler, un petit peu comme on dit sur un coin de table,
hein,
rapidement après le tremblement de terre de 2010, parce qu'il fallait faire quelque chose, il n'y avait rien avant. Et on se rend compte aujourd'hui, après 2010, le tremblement de terre et tous les enseignements que nous en avons eus, et après le tremblement de terre de 2021, que cette carte est à revoir, pas fondamentalement, mais de manière significative, parce que voilà, il faut se mettre dans une dynamique générale d'amélioration de la connaissance sismique en Haïti, qui implique les scientifiques. On a entendu Steve Simit et ses collègues sont derrière lui,
oui,
leurs
absolument.
Collaborateurs internationaux comme nous ici à l'antenne, et puis les ingénieurs, et puis aussi tout ce qui est finalement, et ça c'est important, si on veut arriver vers une résilience, une résistance en tout cas aux séismes qui vont venir, il y en aura d'autres nécessairement sur cette même zone de faille et sur d'autres, il faut arriver à mettre en place des stratégies qui vont vraiment diminuer l'impact des séismes à venir en termes de, on voit bien, en termes de destruction de bâtiments. Ce ne sont pas les séismes qui tuent, ce sont les bâtiments. C'est une phrase classique que disent les sismologues, mais elle est vraie, se révèle exacte à chaque séisme. Donc n'attendons pas le prochain, étant donné ce que nous connaissons maintenant, toute l'information nouvelle dont nous disposons pour avancer sur la voie de la résilience aux séismes futurs en Haïti.
Je vous remercie beaucoup, Éric Calais, de nous avoir accordé cet entretien depuis Port-au-Prince. Je vais vous laisser vous préparer pour la visio avec vos collègues. De même, je vous remercie beaucoup, cher Romain Jolivet, d'être venu à Paris, dans notre studio, à Issy-les-Moulineaux, dans notre studio en direct. Vous allez continuer vos travaux sur Haïti, mais sur d'autres failles, en Californie, le Big One, on en parlera une autre fois peut-être. Allez, un petit mot là-dessus.
Quand vous voulez.
Quand je veux. Ah ben, c'est super. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces tremblements de terre. Transmettez nos salutations, cher Éric Calais, à tous vos confrères d'Urgéo en Haïti, à toutes les sismo-citoyens haïtiens qui s'engagent et qui vont s'engager à vos côtés. Je rappelle aussi Romain Jolivet et Éric Calais qui a un excellent article qui est paru collectif dans The Conversation, sismo-citoyens et chercheurs du monde entier s'allient pour comprendre le récent séisme en Haïti. Et puis je signale aussi l'excellent ouvrage, votre excellent ouvrage, professeur Éric Calais, paru chez l'Armatan en 2017 et qui est toujours d'actualité, malheureusement, science et conscience dans la post-urgence du séisme d'Haïti. On se quitte en musique avec Adjabel, Sous le ciel d'Haïti et des Caraïbes, avant de retrouver Sous le ciel d'Afrique, l'éphéméride mensuelle de notre planétologue Sylvain Boulet, le retour en cette rentrée de septembre de notre rendez-vous audio et vidéo d'observation astronomique, très attendu par tous nos auditeurs astronomes sur le continent. Haïtien Adjabel sur RFI.
Ciel d'Afrique sur RFI. En partenariat avec l'Astronomie Afrique, Caroline Lachowski.
Cher Sylvain Boulet, ravi de vous retrouver pour votre rentrée astronomique que nous réserve le ciel d'Afrique ce mois-ci. Que pourra-t-on observer d'ici au 15 octobre ?
Bonjour Caroline. Alors ce prochain mois sera bien marqué, bien sûr, par la présence de Jupiter et Saturne en début de nuit qui sont très facilement reconnaissables. Alors les deux planètes seront très hautes sur l'horizon, hein. Il faudra donc lever la tête. La planète Jupiter est très lumineuse, clairement c'est le point le plus brillant du ciel quand le soleil est bien couché, quand le ciel est noir, donc c'est vraiment facile à reconnaître. Saturne est un peu moins lumineuse mais reste facilement identifiable à environ 15 degrés de Jupiter. Si vous avez un doute, ne ratez pas le 17 septembre au soir. Vous verrez, la lune gibbeuse sera à ce moment proche des deux planètes et formera un beau triangle. Profitez également de ce mois pour regarder Vénus au coucher du soleil à l'horizon ouest. Je vous rappelle que c'est Vénus que l'on appelle l'étoile du berger. Pas de problème pour la reconnaître également, vu sa luminosité. Et surtout, ne ratez pas le coucher du soleil du 9 octobre, c'est mon anniversaire au passage.
Oh, voilà. On y pensera.
Et car juste après, vous verrez un magnifique croissant lunaire à seulement quelques degrés de la planète Vénus. Enfin, si vous aimez les challenges, eh bien, la planète Vénus, invisible à l'œil nu...
La planète
peut... Vénus, Neptune, je sais pas, je suis parti sous les océans et là, je me suis perdu. La planète Neptune, invisible à l'œil nu, peut être débusquée entre les constellations du Poisson et du Verseau.
Donc j'ai compris, il faudra avoir l'œil pour trouver Neptune. Moi, je retiens donc votre anniversaire et le coucher de soleil du 9 octobre, cher Sylvain Boulet, pour le croissant de lune et pour l'étoile du berger, Vénus. Alors, quelle constellation pourra-t-on vraiment bien voir entre le 15 septembre et le 15 octobre sous le ciel d'Afrique, Sylvain ?
Alors Caroline, d'abord, nous nous rapprochons de l'équinoxe d'automne pour l'hémisphère nord et du printemps pour l'hémisphère sud. Ce sera le 22 septembre. Et je vous rappelle qu'à cette date, quelle que soit votre localisation, au nord ou au sud de l'Afrique, la durée du jour égale la durée de la nuit. En cette fin septembre, début octobre, nous dirons progressivement au revoir aux constellations du Cygne, de l'Aigle, de l'Allure, du Scorpion ou encore du Sagittaire pour dire bonjour aux constellations telles que le Capricorne, le Verseau, Pégase ou encore Andromède. Dans les pays proches de l'équateur, des constellations comme la Grue, le Toucan ou le Phénix seront bien visibles. Et ce sera d'ailleurs pour tous les pays proches de l'équateur ou de l'hémisphère sud, l'occasion de voir à l'horizon sud deux petites taches lumineuses qui ressemblent dans le ciel à de petits nuages. Il s'agit en fait du petit et du grand nuage de Magellan, deux galaxies irrégulières situées au plus proche de nous à seulement 200 000 et 150 000 années-lumière, sachant que ces galaxies contiennent plusieurs dizaines de milliards d'étoiles.
Rien que ça, c'est sidéral. Des dizaines de milliards d'étoiles dans les nuages de Magellan. Et c'est pas tout, car vous avez sûrement, Sylvain, un petit challenge à nous proposer pour ce mois-ci.
Oui, Caroline. Alors, je dirais plutôt une observation incertaine. En fait, le 8 octobre, le maximum des étoiles filantes des Draconides aura lieu. En fait, ce jour-là, la Terre va traverser un nuage de poussière laissé par la comète Giacobini-Zinner. Alors, cet essaim, normalement, il n'est pas très actif et on devrait voir tout au plus 10 météores par heure venant de la constellation du Dragon. Cependant, historiquement, cet essaim a pu être bien plus impressionnant et a même été à l'origine de véritablement de pluies de plusieurs milliers de météores à l'heure, comme cela a été le cas en 1933 et 1946. Je vous propose donc de sortir en début de nuit et de surveiller le ciel. Une surprise vous attendra peut-être.
Dans la nuit du 8 octobre, donc écrivez-nous, chers amis auditeurs, astronomes, et racontez-nous ce que vous avez pu ou non observer cette nuit-là. Mille merci Sylvain Boulet. On se donne rendez-vous le 13 octobre prochain avec une nouvelle lunette astronomique à gagner. Eh oui !
Oui, Caroline, je vous rappelle qu'une nouvelle lunette astronomique est toujours mise en jeu grâce à nos partenaires SSVI et RFI. Alors, pour participer, c'est simple, hein, il suffit d'envoyer sur notre page Facebook l'Astronomie Afrique vos plus belles photos ou vidéos, ou même encore un joli texte que vous avez écrit. Et le gagnant sera annoncé ici même le 13 octobre prochain. Bonne observation, bon su à tous. Et n'oubliez pas, le ciel est le plus grand écran. Il suffit de lever les yeux.
Merci Sylvain Boulet pour cette chronique astronomique à retrouver bien sûr en images sur la chaîne YouTube de RFI. On en profite d'ailleurs pour remercier Sandrine Straram au montage, mais aussi toute l'équipe de l'Astronomie Afrique, ainsi que Jean-Pierre Grothert en Belgique pour toutes ses lunettes astronomiques. Sans oublier d'annoncer la préparation par notre tout premier lauréat d'une lunette astronomique, c'est Christian Gbaba, au Togo, le lancement de l'opération Le Togo sous les étoiles, qui devrait se dérouler en février 2022. On est très impatients de fêter Le Togo sous les étoiles. On envoie à Christian Gbaba et à toute sa petite équipe. Ils sont pas beaucoup, mais ils sont géniaux, équipe de passionnés. On leur envoie toutes nos bonnes ondes. Et puis, allez, on leur envoie un petit extrait du dernier album de Balaké Sissoko. Bah oui, la chorale de Balaké Sissoko, histoire de les encourager et de leur envoyer plein de bonnes ondes pour le futur Togo sous les étoiles. De Balaké Sissoko, extrait de son tout nouvel album. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast sur toutes vos applications et bien sûr sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver lundi, chers amis auditeurs, pour nous inspirer, nous bio-inspirer des ailes de papillon. On n'arrête pas le progrès avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Caroline Nachowski au micro pour vous servir. Merci pour votre fidélité, merci pour votre interactivité. On adore quand vous discutez entre vous sur notre page Facebook. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.